Alors, bonjour à toutes, là, je viens de voir, donc je fais le type qu'ils n'ont jamais vu. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'accueillir un ancien collègue et encore ami, Pierre Damien Huyghe, qui était donc qui est professeur et philosophe et professeur émérite en esthétique à l'université, qui a créé au sein de cette université tout le secteur design. Hein, c'est lui qui l'a. Après beaucoup de combats, mais c'était un long combat, mais il a mis en place ce secteur qui fonctionne bien. Donc c'est lui qui a été pionnier, je dirais pionnier dans tous les sens du terme. Il a écrit de nombreux essais, notamment à propos du design, art et industrie, contre-temps, modernité sans modernité. Et il est l'auteur de deux ouvrages que j'ai ici. Vous voyez, l'un, je l'ai quand même pas mal travaillé, puisque j'ai encore mes post-it dessus, qui s'intitule donc « Cinéma avant-après » au paru aux éditions L'Incidence, 2012, si mes souvenirs sont bons, qui est sorti en 2012. Et puis un deuxième ouvrage, celui sur lequel il va parler, alors on va voir si s'il s'inscrit dans la continuité de l'autre, qui s'intitule « La forme cinéma », qui est paru aussi cette année aux éditions L'Incidence. Et puis je précise aussi que on n'aura pas tellement l'occasion d'avoir un intervenant qui ait une pensée au fond théorique du cinéma, parce qu'au fond il n'y a pas tant de théoriciens du cinéma que ça. Vous allez avoir des gens qui sont spécialistes de certaines choses, et ce qui est intéressant, ce qui me réjouit outre le fait d'accueillir un ami, d'accueillir quelqu'un qui pense en profondeur le cinéma. Et ça, ce sont des choses de plus en plus rares, donc j'en suis ravi, et je suis ravi de t'écouter, Pierre Damien. Merci.
Merci. Alors bonsoir à tous et à toutes. J'ai pensé, avec quelques questions que m'avait adressées José dans un courrier donc amical pour préparer cette séance, à vous proposer une sorte de raisonnement en quatre points, qui sont aussi peut-être plus qu'un raisonnement, qui aurait une construction nécessairement suivie. Il y a quand même une suite, il y a quand même une logique discursive dans ce que je vais vous dire, mais qui sont peut-être aussi à prendre comme quatre éclairages sur le livre donc que j'ai fait et qui m'a demandé un certain temps d'écriture, je dois dire. Quatre points d'éclairage que je vais allumer successivement, avec donc quand même une raison de les prendre dans cet ordre-là, puisque ça construira quand même, je crois, une sorte de raisonnement. Sans introduction particulière, je vous donne le premier éclairage, ou le premier point, que j'ai intitulé « Champ d'études ». Quel est le champ d'études, je dirais, de ce livre en particulier, mais peut-être plus généralement le mien dans l'ensemble de mon travail. À la source de ce livre, La forme cinéma, se trouve en fait, d'ailleurs comme pour le précédent, une demande de mon éditeur qui m'a dit « Tu dois bien avoir encore quelques textes sur le cinéma. » Bon, en fait, ça a été un travail bien plus conséquent que de rassembler des textes qui existent déjà. En tout cas, c'est cette demande qui est à la source de ce travail. Et moi, j'ai pensé de mon côté que je pouvais répondre à cette demande en poursuivant le travail de critique, non pas de l'art, mais de l'idée d'art que j'ai entrepris depuis, au fond, depuis ma thèse de doctorat. Évidemment, je vais, faute de temps, poser un certain nombre d'affirmations, mais tout point que j'aurais affirmé qui vous semblerait discutable, on pourra évidemment le reprendre par la suite dans la période, dans la phase discussion de notre soirée. Donc j'ai pensé que je pouvais travailler sur le cinéma en poursuivant mon travail critique sur l'idée d'art. Cette idée est variable, historiquement. Il fut un temps dont témoignent les textes classiques. Je ne parle pas encore du cinéma, bien entendu, là. Je parle d'une idée bien plus vieille. Il fut un temps dont témoignent les textes classiques où les mots, par exemple, art et industrie, pouvaient s'échanger. Je cite souvent des textes d'un théoricien ou d'un amateur d'art de la fin du XVIIe siècle, qui conseillait le roi de France d'ailleurs dans ses achats, qui s'appelait Roger de Pile, et dans ses textes, on peut voir s'échanger les mots art et industrie et figurer une expression qui serait aujourd'hui surprenante, comme celle-ci, l'industrie du peintre, qui vaut dans ses textes comme équivalent de l'art du peintre. Donc vous voyez qu'il y a une époque dans laquelle ces deux notions, art et industrie, sont susceptibles de se recouvrir l'une l'autre. Et puis il y a un autre temps dont témoigne de façon majeure un texte de Baudelaire, où cet échange entre ces deux termes, art et industrie, est devenu problématique et même contesté. Entre ces deux bornes, donc le XVIIe, l'époque classique, la phase classique, et la modernité, comme on dit aujourd'hui, industrielle, sur cette question, vous trouvez le siècle des Lumières, lequel a construit la notion de beaux-arts. Ça n'existe pas avant, les beaux-arts. Donc le XVIIIe siècle a construit la notion de beaux-arts et a laissé entendre, ce faisant, dans l'intitulé même de l'expression, qu'il y aurait des industries qui ne seraient pas exactement des arts, et pour lesquels la question de la qualification esthétique n'aurait pas à se poser. On pourrait résumer en disant la notion même de beaux-arts laisse entendre l'idée qu'il y a des arts qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas voués à s'intéresser à ce genre de questions. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Ce que j'appelle, dans la phrase que je viens de vous lire, la qualification esthétique. C'est le problème pour moi du siècle des Lumières, c'est d'avoir laissé glisser plus qu'affirmer dans les pensées que sous le nom d'industrie, on pouvait soutenir, au fond, une idée d'art ou de technique qui n'est pas fondée à se poser des questions esthétiques. Ces industries, par hypothèse exclues d'avoir à s'occuper de la beauté, pouvaient, selon l'argumentation d'époque, qui est toujours en fait dans nos esprits, ces industries pouvaient se répandre, donc non pas en raison de leur qualité esthétique, mais en raison de leur utilité. Hein, c'est le siècle des Lumières, c'est le siècle dans lequel s'est construite l'opposition entre l'utile et le beau. Donc les industries, au sens, si vous voulez, plus moderne du mot, pas classique, sont fondées ou sont supposées fondées à se répandre, non pas en raison de leur qualité esthétique, mais de leur utilité. Cette notion, l'utile, étant elle-même rapportée, et c'est pas si vieux que ça, que ce rapport, on croit qu'il va de soi, pas du tout, c'est une construction intellectuelle qui a demandé du temps. Utilité donc elle-même rapportée aux avantages, profits et commodités. C'est ce que vous trouvez dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, sous la plume de Diderot. Le mot, c'est pas une entrée de l'encyclopédie, l'utilité, mais vous la retrouvez connotant ces notions-là, avantages, profits, commodités. Une utilité, c'est est utile un objet dont il peut être tiré avantage, profit ou commodité. Mais la beauté, c'est une autre affaire. Donc on a là une construction qui sépare à la fois l'industrie et l'art et l'utilité et la beauté. Commode, profitable, avantageuse et finalement banale, c'est bien, je crois, ce que sont devenues les productions filmiques aujourd'hui. Il est très banal aujourd'hui de faire un film. C'est devenu extrêmement commode et, dans certains cas, ça peut être profitable. Le problème, c'est que le découpage notionnel auquel je viens de faire référence, art, industrie, beauté, utilité, ce découpage notionnel a lui-même été contesté après le siècle des Lumières et même, je dirais, après Baudelaire. C'est de cette contestation qu'est née l'idée moderne de design, dont mon livre Art et Industrie, que José a mentionné en m'introduisant tout à l'heure, de cette contestation donc, est née l'idée moderne de design dont mon livre Art et Industrie étudiait les premières ou l'une des premières solidifications institutionnelles dans le Bauhaus allemand des années 1920. Mais la première, je commence à raisonner là, je vous préviens, jusqu'à présent c'était juste pour mettre l'ambiance. Hein. Bon. La première formulation puissante de l'idée de design, donc je l'ai étudié sa solidification institutionnelle dans le Bauhaus allemand des années 20, mais la première formulation que j'ai trouvée en tout cas de cette idée de design, je l'ai trouvée donc dans un texte dû à l'architecte américain Louis Sullivan, texte aussitôt repris par un autre architecte également américain qui s'appelait Frank Lloyd Wright et qui a été publié en 1896, le texte de Louis Sullivan publié en 1896, soit à une année près, le moment où, comme vous le savez, les frères Lumière sont réputés avoir inventé le cinéma. Le texte en question de Sullivan contient la fameuse formule « Form ever follows function ». Cette formule lie à sa façon l'utilité, function, à la qualité esthétique, form, tout en définissant une sorte de méthode, follows. Le premier pas de toute production, affirme ce texte ou cette phrase, se justifie, si on l'admet, d'une fonctionnalité. Form ever follows function, ça veut dire ça commence par function. Ça commence par l'utilité. Quand on produit quelque chose, la première question qu'on se pose, c'est à quoi ça va servir, pour aller vite. Mais le second pas, différent par définition, mais aussi pas nécessairement effectué, possible mais pas inévitable, le second pas, la phrase dit en substance, susceptible de mener le produit fonctionnel à un état supplémentaire, follows. Si ce pas est effectué, si ce pas supplémentaire est effectué, si de la fabrication d'une fonction il s'ensuit quelque chose, alors à l'utilité et à l'utilisation de cette fonction s'ajoutera de la forme. Alors, question qui est liée, à tout mon travail, pas seulement à mon travail sur le cinéma, hein, mais c'est le même travail au fond pour moi, je vais vous le dire dans une seconde, ça aurait été le même travail de réfléchir à la condition historique du design et à la condition historique du cinéma. Qu'est-ce qu'il s'agit de penser avec ce mot de forme et avec ce travail supplémentaire qui viendrait s'ajouter à la dimension fonctionnelle? Mon hypothèse foncière est que cette question, la question de la forme, question à la fois seconde, si on suit la formule de Louis Sullivan, mais non secondaire à mes yeux, et même je pense, j'espère vous en convaincre aux yeux de quiconque, cette question seconde mais non secondaire ne concerne pas moins l'industrie des films que celle des objets et des architectures. N'aura pas moins concerné l'industrie des films que celle des objets et des architectures. Il s'agit dans les deux cas, design et cinéma, de bâtir quelque chose et de le faire dans des conditions avec un outillage qui ne peut être qu'un outillage d'époque. D'aujourd'hui, du moment. Comment de la forme et de la beauté peuvent-elles s'impliquer dans ce bâtir, ou dans un bâtir en général, alors même que lui, ce bâtir, répond premièrement, ici comme là, dans le design comme dans le cinéma, à un autre motif? Comment de la forme peut venir dans une démarche dont le motif premier n'est pas de faire forme. Étant donné ces questions, je peux vous dire que, selon moi en tout cas, mes livres sur le cinéma complète ceux que j'ai écrits à propos du design. C'est le même travail. Bon, ça, c'est le premier éclairage. Je pense que ça va encore. Alors, je passe au deuxième, que j'ai intitulé, sur mes notes, là, « La forme comme structure d'apparaître ». Alors, je disais en commençant que j'allais faire un raisonnement, ou peut-être plutôt porter des éclairages successifs sur un même sujet global. Donc c'est le cas, puisque apparemment, dans ce que je veux dire maintenant, vous n'allez pas... enfin, je dis apparemment, je pense que vous n'allez pas trouver, dans ce que je veux dire maintenant, en tout cas pas immédiatement, le lien avec ce que je disais précédemment. Hein. Donc j'allume une deuxième lanterne, et le tout va... Vous allez vous apercevoir au bout d'un moment que c'est pour éclairer le même paysage. Hein. Donc, passons au deuxième point, sans trop nous occuper pour le moment la liaison avec le premier. J'ai lu, des fois, j'ai lu un auteur qui n'est pas un philosophe, et qui est un zoologue, qui s'appelait Portman, Adolf Portman, qui a publié à la fin des années 40 un ouvrage que je trouve extraordinaire. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir trouvé extraordinaire. Il a été réédité dans les années 60, et des gens aussi prestigieux que Merleau-Ponty et Hannah Arendt l'ont signalé à l'attention à ce moment-là. Donc cette lecture non philosophique de Portman s'intéresse à la forme animale. C'est le titre du livre de Portman, « La forme animale ». Cette lecture m'a conduit à considérer qu'on pouvait, sous le nom de forme, et j'en parle dans le livre de ça, dans le livre sur le cinéma, qu'on pouvait considérer sous le mot de forme, je cite une phrase de Portman, « l'élaboration d'une structure d'apparaître ». Qu'est-ce que c'est que faire forme? C'est élaborer une structure d'apparaître chez les animaux. En tout cas, c'est ça, d'après Portman. L'élaboration d'une structure d'apparaître qui, ajoute Portman, et pour moi, la suite est très importante, une structure d'apparaître qui n'a ni de valeur signalétique, ni de valeur cryptique. Tout le livre de Portman vise à montrer que la forme animale n'est pas fonctionnelle et qu'elle ne signale rien. Elle assure ce que Portman appelle, et je développe ce point dans mon livre, une auto-présentation de l'espèce pour laquelle elle est forme. Donc je garde juste cette phrase, si vous voulez, pour le raisonnement de ce soir. On peut nommer sous le mot de forme l'élaboration d'une structure d'apparaître qui n'a ni de valeur signalétique, ni de valeur cryptique. Fin de citation. Pour autant, ça n'est pas rien dans le monde des vivants que cette forme sans valeur signalétique et sans valeur cryptique. Ça n'est pas rien. On peut résumer cette phrase en disant quand même, c'est pas rien de faire forme. En tout cas, c'est pas rien chez les animaux. Ma question... Pardon, c'est pas rien dans le monde des vivants que cette forme, et je reprends par conséquent l'expression de Portman, c'est pas rien cette structure d'apparaître. Ma question, aucune espèce vivante n'échappe à ça, le fait de faire forme, le fait de produire en tant que vivant une forme. Ça n'est pas rien que la structure d'apparaître pour le vivant, même si cette structure d'apparaître n'a pas de valeur signalétique, et pour élargir la réflexion, de fonction manifeste. Ma question depuis longtemps est de savoir si nous, les humains, les animaux techniciens, ma question depuis longtemps est de savoir si nous en sommes passibles de cette forme, de cette structure d'apparaître, de cet intérêt pour la structure d'apparaître, en tant que techniciens. Est-ce que nous sommes passibles de la forme en tant que techniciens? Est-ce que nous sommes passibles des structures d'apparaître en tant que techniciens? Est-ce que trouvons-nous qu'il vaille la peine de chercher à faire paraître dans ce que nous mettons au monde, ce genre de structure insignifiante, sans valeur signalétique, je rappelle encore, dont parle Portman. Alors, je m'arrête, j'ai des notes sous les yeux, comme vous l'avez vu, puisque ça s'est apparu à l'écran tout à l'heure, et je peux vous dire que j'ai travaillé pour les rédiger, ces notes. Bon. Je m'arrête un petit peu quand même pour souligner ce point qui est pour moi capital, et je pense que pour moi en tout cas, c'est un point très important dans mon livre, et ça va être l'occasion, je vais y revenir rapidement, de tout un débat avec les philosophes, que ce que je viens d'appeler insignifiant. Voilà. C'est une de mes grandes thèses, est-ce que je peux dire philosophique ? Oui, je crois que je peux le dire, que de dire l'insignifiant, c'est paria. Voilà. Et je conclurai tout à l'heure, donc je tue le suspense, en disant que la question que j'adresse, j'adresserai volontiers à mes contemporains, a fortiori s'ils sont plus jeunes que moi, donc vous, c'est de savoir si ça nous intéresse encore, l'insignifiant, et si nous sommes encore d'accord pour penser que l'insignifiant, c'est pas rien. Voilà. Que nous ne sommes pas concernés en tant qu'humains que par des choses signifiantes. Donc, je reprends la lecture de mon texte. Est-ce que nous trouvons qu'il vaut la peine de chercher à faire paraître dans ce que nous mettons au monde la structure insignifiante, sans valeur signalétique, dont parle Portman et dont il dit qu'elle est inévitable dans la vie animale. Est-ce que nous faisons aussi notre affaire de cette dépense supplémentaire d'énergie productive par rapport à la mise au monde des fonctions, de choses qui fonctionnent, que la forme. Est-ce que nous faisons de cette dépense supplémentaire d'énergie productive notre affaire aussi, nous qui, par ailleurs, nous affairons avec et à propos de choses fonctionnelles. Si oui, si nous faisons notre affaire, si les humains sont capables, ou en tout cas ont été capables, de faire leur affaire de la question des formes, est-ce que, si oui, donc si la réponse est positive à la première question, les humains, oui, il leur est arrivé de faire leur affaire de la question des formes, est-ce que, dans cette hypothèse, l'économie des techniques caractéristiques de la société industrielle nous a privés de trouver justifié l'idée de faire pour ou jusqu'à la forme. Est-ce que on serait pas dans une phase historique, dans une époque dans laquelle, justement, c'est ce qui caractériserait cette époque, c'est qu'elle s'est fermée, c'est qu'elle nous a fermés au souci de la forme, qui était éventuellement une affaire pour nos ancêtres. Voilà. Est-ce que c'est ça la société industrielle ? Est-ce que c'est pas une société dans laquelle, justement, l'idée de faire quelque chose pour rien, pour la forme, quoique je parle mal, parce que justement la forme n'est pas rien, hein, pour rien de fonctionnel, hein, est-ce que l'idée de faire quelque chose, je reprends ma formule, jusqu'à la forme, de pousser jusqu'à la forme, ou de faire pour la forme, hein, pourquoi tu fais ça ? Oh, pour la forme. Ce qui presque souvent dans les esprits veut dire pour rien. Voilà. En tout cas, pour rien de apparemment sensé. Pour rien de apparemment commode, utile, avantageux, etc. Généreux. On pourrait dire aussi bien. Que nous soyons fermés par la société industrielle à l'idée de faire pour la forme, c'est là un risque, sans doute, auquel précisément le design et le cinéma résistent. Et je pose cette résistance comme un bonheur. Faire quelque chose pour la forme, je pose que c'est, si c'est encore possible, un bonheur. Et la résistance du design et du cinéma à la réduction fonctionnelle des opérations humaines, je la pose comme un bonheur. Mais pour ouvrir à ce bonheur sa voie, il faut bien admettre, à titre de point de départ, que les opérateurs techniques matériels ne s'opposent pas a priori à cette possibilité. Les opérateurs techniques matériels, ça veut dire avec quoi on fait. Donc, par exemple, pour faire du cinéma, on va faire ça avec une caméra et un microphone. Voilà. Pour que on puisse poser l'hypothèse du bonheur qu'il y a à travailler pour la forme, il faut aussi admettre que ce avec quoi on travaille, les outils, l'appareillage, ne s'oppose pas à se travailler pour la forme. Pour ma part, je pose même que lorsque ces opérateurs sont des appareils, ils sont eux-mêmes, je dis bien eux et pas nous, qui les manœuvrons, partiellement ou potentiellement porteurs de forme. Non seulement je pose que il y a des opérateurs techniques avec lesquels on peut mettre au monde de la forme, mais j'ajoute, et c'est ça que j'appelle un appareil dans mon travail, pas un instrument, pas une machine, un appareil, cet opérateur technique qui est susceptible en lui-même, pas du fait seul de nos manœuvres, mais par ses propres possibilités, d'être porteur de forme. Donc, simplement, alors j'essaye de justifier ça, évidemment, davantage dans mon livre, un appareil photo, une caméra, est pour moi un porteur de forme. C'est un appareil, ça veut dire que c'est un porteur de forme potentiel. Si je ne suis pas clair, vous me poserez des questions tout à l'heure. Ce sont, si je reprends ou si je flirte avec les formules de Portman, les opérateurs techniques matériels, les appareils, ce sont des élaborateurs possibles de structures d'apparaître. Alors, ce n'est pas le cas de tous les outillages avec lesquels les humains travaillent. Hein. Peut-être qu'une machine, ça n'est pas un élaborateur de forme, c'est un élaborateur de fonction, mais pas forcément de forme. L'appareil, oui. Ce sont donc des élaborateurs possibles de structures d'apparaître, et les appareils avec lesquels le cinéma se fait sont tels, des appareils. Encore faut-il les respecter dans cette possibilité, y voir une chance et admettre cette idée que former, ça n'est pas faire signe. Et admettre décidément cette idée que former, ça n'est pas faire signe. Ou que s'il y a de la forme en quelque chose, alors cette chose est pour cette part de forme qu'elle présente, insignifiante, et même, ajouterais-je, hors de raison d'être, sans autre justification, justement, qu'un certain apparaître. Je vais clarifier un peu tout ça, rassurez-vous. En ce sens, former, ça n'est pas agir. Parce que agir, c'est toujours chercher à signifier quelque chose à ceux qui sont autour de nous ou à ceux à qui on destine une action. Alors ça serait toute une discussion philosophique de justifier ce que je suis en train de vous dire. Supposer que j'ai pas tort. Voilà. Supposer que je n'ai pas tort. Et continuons à raisonner. S'il y a de la forme en quelque chose, alors cette chose est pour cette part de forme qu'elle présente, insignifiante et même hors de raison d'être, sans autre justification que un certain apparaître. En ce sens, donc, je répète, former, ce n'est pas agir. Donc ça va être un de nos problèmes, à mon sens, aujourd'hui, que nous voulons agir par le biais d'images, et du coup, nous ne pensons pas assez à la possibilité de former ces images elles-mêmes. En ce sens, former, ça n'est pas agir, et débat avec Deleuze qui est quand même relativement poursuivi dans mon livre, ça n'est pas non plus pratiquer. Faire forme, ça n'est pas agir et ça n'est pas pratiquer. Que les philosophes qui ont fait cas du cinéma n'agréent pas ce genre de thèse, c'est ce que j'essaye de faire voir à plusieurs reprises dans mon livre, notamment dans sa deuxième partie. Walter Benjamin fait exception, à mon sens, mais aussi mentionné et cité soit-il, Benjamin fait-il vraiment partie de la famille des philosophes? Je pense qu'il y a une résistance des philosophes, en tout cas des philosophes contemporains, à faire valoir, si j'ose dire, l'insignifiant. Voilà. Et l'idée que faire forme, ça n'est pas pratiquer. En tout cas, si, je ne sais pas si Benjamin fait vraiment partie ou non de la famille des philosophes, en tout cas, force est de constater que ceux-là même qui n'ignorent pas son œuvre, l'œuvre de Benjamin, ne sont pas enclins à le mentionner quand ils réfléchissent sur le cinéma. C'est le point commun des 4 ou 5 philosophes sur lesquels je travaille particulièrement dans mon livre, que de ne pas faire droit à la notion d'appareil que j'ai définie rapidement il y a quelques minutes, et de ne pas mentionner Benjamin, ou pas franchement, comme un auteur dont il y aurait à tirer parti pour la pensée du cinéma. Fin du deuxième point, du deuxième éclairage. Troisième point, j'ai intitulé ça « De la possibilité d'une critique ». J'ai utilisé il y a quelques minutes, j'espère que j'étais à peu près clair, à propos des appareils, la notion de portée. De quoi les appareils sont-ils porteurs? Et je suppose, puisque ce sont des appareils, qu'ils sont, au moins à titre de possibilité, porteurs de forme. De quoi, pour ce qui la concerne, une caméra est-elle porteuse? De quoi, plus précisément, pour ce qui la concerne, une caméra est-elle porteuse? Qu'est-ce que, en soi, techniquement, une caméra? Réponse. C'est un objet capable, depuis peu à l'échelle historique, parce que les premières, c'est des inventions qui datent seulement du 19e siècle, c'est un objet capable, depuis peu à l'échelle historique, de faire venir à l'image des indices du monde. Voilà comment je définis la caméra. Alors c'est le troisième éclairage, c'est-à-dire c'est pareil, dans un premier temps, ça ne semble pas lié au précédent, mais ça va venir. Je pense que ça va se coordonner. Donc, de quoi une caméra, qu'est-ce qu'une caméra? C'est un objet capable de faire venir à l'image des indices du monde. Indice, ça n'est pas index. Il faut clarifier les concepts. Indice, ça n'est pas index. Indexer, comme l'index, c'est pointer du doigt. Là, je fais le geste d'indexation dans ce sens-là. Ça part de moi et ça va dans la direction de mon doigt. C'est le premier sens du mot. Indexer, c'est comme pointer du doigt. C'est donc un mouvement dirigé. Donc vous comprenez que si un indice n'est pas un index, ce que je vais dire, c'est qu'en tant qu'elle est capable de porter des indices, La caméra, dans cette capacité-là qu'elle a, n'est pas dirigée. Voilà. C'est elle qui est porteuse d'indices, et pas dans le fait qu'elle soit dirigée. Bon. Indexer, c'est donc, restons sur l'index ou l'indexation pour le moment, indexer, c'est un mouvement dirigé. Toute indexation est gouvernée par un sujet qui s'en occupe, qui s'occupe de la diriger. Je peux donc dire d'une indexation qu'elle est subjectivante. C'est ce rapport de subjectivation que l'indice, et donc la caméra dans sa portée intrinsèque, met en défaut. Ce que tout indice met en défaut, c'est la prétention du sujet à gouverner, à diriger. Ce que lui-même va mettre dans le monde, voilà, indexé. C'est ce rapport de subjectivation que l'indice met en défaut. Un mouvement est toujours en jeu dans l'indice, mais comme il se produit cette fois dans l'autre sens, ça vient des choses, en dépit de ce qui occupe le sujet, il peut surprendre ce sujet. Il y aurait toute une méditation à faire, la parenthèse totale qui n'est pas du tout sur mes notes, concernant le roman policier. hein, et les indices de les indices dont l'enquêteur, en fait l'enquêteur dans le roman policier, je dois ça à une thèse d'étudiant dont je m'étais occupé au début des années 2000. Tout enquêteur dans un roman policier est comme un appareil photo qui transmet, qui reçoit des indices du monde et qui ensuite en fait quelque chose pour résoudre, en l'occurrence, une énigme. Parenthèse refermée qui complique un peu inutilement mon propos. Donc un mouvement est toujours en jeu dans l'indice, mais il se produit dans l'autre sens que dans l'index, c'est-à-dire en dépit de ce qui occupe le sujet et donc surprenant ce sujet. Alors, je viens de mentionner ici une notion qui occupe mon travail depuis assez longtemps, qui est passée dans le verbe « surprendre », la surprise. Je voudrais commenter un peu ce mot-là, la surprise. Et pour réfléchir, imaginez que je l'écrive « sur », trait d'union, « prise hein, », ce qui vient en plus de la prise. Alors, si vous réfléchissez à ça, vous commencez peut-être à dire « ouais, tout à l'heure, il parlait, ah oui, tout à l'heure, il nous parlait de supplément, là, tout ça, le supplément de la forme. Là, maintenant, il parle de surprise. Il doit y avoir un lien, sans doute, entre les deux. » Voilà. Je pense que tout appareil photo, comment dire, pas totalement dirigé, toute caméra pas totalement dirigée, en tant que c'est un appareil indiciel, surprend le sujet qui croyait qu'il dirigeait l'opération, qui croyait qu'il indexait quelque chose. Donc cette notion de surprise est une notion ancienne dans mon travail et elle m'aura permis de comprendre en quoi et pourquoi l'invention de la photographie, par extension des appareils d'enregistrement, a été un phénomène majeur. Je tente depuis longtemps d'attirer l'attention sur le fait qu'il ne suffit pas de penser l'opération d'une caméra comme une prise effectuée en conséquence d'une visée. J'ai beaucoup de... Il y a un mot extrêmement fréquent qui, disons, évidemment, en tant qu'homme normal, je le dis comme tout le monde, mais quand je viens dans une position comme celle qui est la mienne ce soir, où je dois faire attention à ce que je dis et essayer de parler le plus rigoureusement possible, je pense que c'est une erreur d'assigner à tout maniement de caméra ou d'appareil photo la notion de prise de vue. Voilà. Il y a toujours quelque chose dans une photographie ou un enregistrement en général qui surprend les intentions de celui qui dirige l'appareil dans un certain sens. Il y a toujours de l'indice. Il n'y a pas que de l'indexation. Voilà. Surprise. Ça vient en plus. Bon. Et toute l'économie du cinéma, et entendez bien le mot économie, comme on dit en français, faire l'économie de quelque chose, c'est s'en passer. Toute l'économie du cinéma, c'est, pas le cinéma lui-même, mais l'économie du cinéma, c'est réduire la part d'indice dans l'opération. Privilégier l'indexation ou l'index sur l'indice. C'est-à-dire la direction, la visée, ce mouvement-là qui part du sujet, qui va vers les choses, et non pas le mouvement inverse, les choses qui viennent au sujet. Donc j'attire depuis longtemps l'attention sur le fait qu'il ne suffit pas de penser l'opération d'une caméra comme une prise effectuée en conséquence d'une visée. Ça ne suffit pas. Certes, l'appareil peut opérer en ce sens aussi, puisqu'il dispose d'un viseur apte à relayer les intentions de celui qui le manie. Certes donc, cet appareil est complexe, il est à la fois de l'ordre de l'index et de l'ordre de l'indice. Il est complexe au sens propre du mot. Certes, cet appareil est complexe, mais en raison de la technique qu'il met en jeu, un supplément, une surprise, y sont toujours apportés. Alors, apporter, je l'écris à accent grave, plus loin, porter, pas le verbe apporter. Vous me suivez voilà. Là, il faudrait que j'affiche mon texte pour que ça soit tout à fait clair. Voilà. Un supplément, une surprise est toujours à portée de l'appareil quand il est mis en marche. Voilà. C'est jamais loin. Voilà. Pareille surprise, pareil supplément, je vous propose de les nommer autrement. Pareille surprise, pareil supplément constitue la donnée. Alors c'est intéressant pour réfléchir aujourd'hui à ce qu'on appelle une donnée. Pareille surprise, pareille supplément constitue, dans le cas en tout cas de l'appareil photo et de la caméra, la donnée, le don, l'offre, le présent, dans tous les sens du mot, comme on dit le présent, un cadeau, vous voyez, mais aussi le présent. Dans une photographie, je discuterai volontiers la formule de Barthes, ça a été, à propos de la photo, je pense, moi, que ce qui est, ce qui fait que nous ne sommes jamais indifférents à une photo, c'est ce qui ne passe pas. C'est qu'il y a du toujours présent dans une photo. Ce qui a été photographié est toujours présent pour la raison que la photographie est indicielle dans l'image. Voilà. Donc je reprends mes mots. La surprise, le supplément, constitue la donnée, le don, l'offre, le présent dont l'appareil est susceptible dès lors qu'il est mis en tournage. Je peux dire aussi, la surprise, le supplément, la donnée, le don, l'offre, etc., c'est ce qui arrive avec le tournage, avec la mise en tournage de l'appareil. C'est ce qui arrive. Ce qui arrive, cela peut se nommer encore accident. Alors je parle à un français nourri de latin. Accidit, d'où vient le français accident? En latin, ça se traduit, enfin, la formule latine, le verbe impersonnel accidit, ça se traduit par il arrive. Qu'est-ce que c'est qu'un accident? C'est quelque chose, on ne sait pas quoi, qui arrive. Voilà, qui vous, éventuellement, vous saute à la figure. Voilà. Donc, la surprise, le supplément, le don, l'offre de l'appareil, le présent de l'appareil, ce qui arrive avec lui, je peux dire aussi que c'est de l'ordre de l'accident. Parlons donc des accidents du tournage. Parlons donc du tournage comme accident. Ou du film, ou pour être plus précis, je me suis mal exprimé. Parlons donc des accidents du tournage, parlons donc du tournage comme accident du film, ou pour être plus juste, sans doute, dans la formulation, parlons du tournage comme moment de l'opération cinématographique ouvert à l'accident, à l'arrivée, au don, à l'offre, etc. À la surprise. Comment lier à cette ouverture, à l'accident, quelle place donner finalement dans l'ensemble du film produit et monté? Je pense en particulier, beaucoup d'autres exemples seraient possibles, mais là tout de suite je pense en particulier à la façon dont un cinéaste comme Jean-François Stévenin très probablement montait ses films en respectant les accidents du tournage. Qui a été un principe de montage chez lui, un principe de tournage et un principe de montage. Alors, c'est pas le seul, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait des accidents du tournage dans l'ensemble de la fabrication du film, c'est-à-dire montage inclus? Comment lier cette ouverture du tournage à l'accident? Comment la lier à l'inévitable cadrage et par ce biais aux préoccupations et aux visées qu'on ne peut pas ne pas avoir quand on fait un film. Cette question, comment lier les accidents dont la caméra est capable aux visées qu'on ne peut pas ne pas avoir quand on fait un film, aux intentions, autrement dit, qu'on ne peut pas ne pas avoir quand on fait un film, cette question est quant au cinéma, je crois, la question critique par excellence. Du moins, si l'on admet, conformément au sens initial du mot critiquer, du verbe critiquer, que critiquer, c'est tamiser, séparer, discerner ou distinguer. Je serais heureux, vraiment, mais je pense que j'ai beaucoup de chance de ne pas éprouver ce bonheur, mais je serais heureux si mon livre avait pour conséquence de relancer la possibilité d'une véritable critique du cinéma. Et j'essaye, en fait, une grande partie de mon travail dans ce livre consiste à fonder la possibilité de cette critique du cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire critiquer ? Et c'est dans cette perspective, notamment dans cette perspective, que je fais comparaître un certain nombre de plans-séquences, par exemple, trouvés dans différents films. Je les fais comparaître. C'est-à-dire, je me demande si le plan-séquence chez Angelopoulos, c'est le même ou pas le même que chez Bellatar, que chez Amos Gitai, que chez Straub, etc. Je les fais comparaître avec à chaque fois cette question de savoir, une question critique qui sépare, qui distingue. Qu'en est-il de l'accident ? Et qu'en est-il de la visée ? Est-ce que c'est un plan-séquence particulièrement visé ou particulièrement accidenté ? Voilà, ça c'est une question critique. Et j'ai l'ambition de penser que ça pourrait être la question critique par excellence du cinéma, si on voulait faire vraiment de la critique. Voilà. Donc je fais comparaître un certain nombre, par exemple, de plans-séquences trouvés dans différents films, et j'entreprends de la sorte, non pas de juger ces plans, c'est-à-dire la question n'est pas de savoir s'ils me conviennent, s'ils me plaisent. Je ne les juge pas, ces plans, aucun, je ne crois pas. J'entreprends non pas de les juger, ces plans, donc selon mon goût, mais j'essaye d'en établir la balance. J'essaye de les balancer. C'est-à-dire, voilà. Qu'est-ce qui pèse le plus, la visée ou l'accident ? Voilà. La part. Je les mesure, ces plans-séquences, entre autres les plans-séquences, je veux dire. Je pourrais prendre des plans par séquence aussi bien. Hein. Je les mesure à l'aune de leur orchestration. S'il a fallu très orchestrer le plan, alors il y a des chances que la visée prime dans le plan séquence en question. Qu'en est-il de l'orchestration du plan ? Je pense que c'est une question éminemment critique. Voilà. Bien sûr, il n'est aucun plan, aucun film qui n'ait été préparé. Bien sûr, en tout les plans et en tous les films, il y a du cadrage. Mais en certains, il y a davantage d'arrivées, d'accidents, d'imprévus ou d'improvistes que dans d'autres. Et corrélativement, il y a davantage de temps abandonné à l'ouverture, à la patience mécanique de la caméra ou, le cas échéant, du microphone. Alors, par exemple, j'analyse une séquence de Bresson, je dis le microphone, la patience du microphone. Je vais commenter ce mot patience qui me plaît beaucoup. Voilà. La patience des caméras, la patience des microphones, la patience des appareils. Mais avant de commenter ce mot, juste pour signaler, j'analyse à un moment donné une séquence de Bresson, d'un film de Bresson, où c'est la portée du microphone, portée, vous voyez, le mot revient, la portée du microphone, qui détermine la durée du plan. C'est-à-dire, sur le plan diégétique, sur le plan de la construction de l'intique, on n'a pas besoin que le plan dure si longtemps. Pourquoi il dure si longtemps ? Parce qu'en fait, la portée du saut, il s'agit d'un ascenseur qui va descendre, et il s'agit, le micro étant placé au deuxième étage, ou au premier, je ne sais plus, je crois que c'est au deuxième, on va laisser le micro enregistrer le son de l'ascenseur qui descend jusqu'au palier. Voilà. La portée du microphone justifie la durée du plan. Ça, c'est de la patience. Et ça, c'est de la forme. Voilà. Laisser l'appareil d'enregistrement, en l'occurrence, offrir, donner, etc., son propre temps de travail. Ouais. Je pense que c'est ce qui conduit le film, non pas à être tout entier dans le registre de la forme, mais là, à ce moment-là, à faire paraître de la forme cinéma. Alors, petite remarque sur le mot patience. Je pense que c'est lié, si vous voulez, si on prend l'étymologie de tous ces mots-là, ça vient du latin, etc. Mais la patience, j'ai dit passible précédemment dans mon discours. Je ne sais pas si vous avez entendu de quoi on est passible. Alors passible, c'est pas tout à fait passif. Hein. C'est quelque chose qui peut arriver, quelque chose dont on est passible, c'est quelque chose qui peut nous arriver, qui ne nous arrive pas nécessairement, mais qui peut nous arriver. La patience, ça désigne, alors c'est pas la passivité de la caméra, mais le fait qu'il y a une surface réceptrice d'impressions lumineuses, par exemple. Hein. Ça suppose que la caméra dispose d'une certaine patience, c'est-à-dire qu'elle supporte, qu'elle souffre de recevoir en soi les impressions lumineuses en question. Mais pour qu'elle les reçoive, il faut forcément qu'elle soit ouverte un certain temps, et par conséquent, le temps d'ouverture d'une caméra, c'est le temps de sa patience. Le temps d'ouverture d'un microphone, c'est le temps de sa patience à lui, le microphone, à elle, la caméra. Pas, je ne parle pas de la patience de l'opérateur, hein, qui abandonne justement l'opération à la patience de l'appareil. Fin du troisième point. Donc, on arrive bientôt vers la fin. Et j'ai intitulé ce quatrième point « Inactualité de la forme cinéma ». Inactualité de la forme cinéma. Donc, je répète, la forme cinéma est liée, c'est la thèse principale, si j'ose dire, de mon livre, à ce que je viens d'appeler la patience des appareils. La forme cinéma a lieu, ou a des chances d'avoir lieu, quand la patience des appareils a lieu. Et j'ajoute, alors c'est pour ça que c'est pas le même, pas seulement le point 3, cette fois je suis bien dans le point 4. La forme cinéma a lieu quand la patience des appareils a lieu et quand ce lieu de la patience se fait encore sentir dans le film monté. Je dis bien sentir. C'est-à-dire que la forme cinéma, c'est quelque chose qui demeure de la patience de l'appareil dans le film monté et s'y fait encore sentir. Je dis bien sentir. Je prends ce mot, ce verbe, alors bon, on ne se refait pas, hein, philosophe, dans le sens de Kant. Et dans ce sens-là, il ne s'agit pas sentir, ça ne veut pas dire connaître, ni savoir-faire. Le sentiment n'est pas connaissance ni savoir-faire, mais étonnement. Quand il utilise le mot sentiment dans la critique de la faculté de juger, c'est pour, il le dit lui-même très explicitement, dire étonnement. Il n'y a pas, le sentiment que j'aurais ou que j'ai de quelque chose veut dire que cette chose m'a étonné. Pour Kant. Alors je prends le mot sentir dans ce sens-là, pour éviter des tas de malentendus autour de ces mots qui ne manquent pas de courir autour de nous. L'étonnement n'est pas raisonnable ni rationnel. Il n'est pas d'explication de l'étonnement. Je ne m'explique pas quelque chose qui m'étonne. Justement, ça m'étonne. Parce que je n'ai pas d'explication quant à cette chose. Donc l'étonnement n'est pas raisonnable, pas rationnel, et pas, en tout cas pas sur le champ, expliqué. En revanche, alors ça c'est moi qui parle, même si je ne pense pas, en parlant comme ça, contredire la thèse kantienne, en revanche, si l'étonnement n'est pas raisonnable ni rationnel, en revanche, il est mémorable. Donc la forme cinéma, si elle est toujours étonnante, elle est toujours mémorable. Parce qu'elle est étonnante. Et je répète, je ne sais pas pourquoi. Elle est mémorable, comme disait lui, pour caractériser l'étonnement esthétique durable. Aucun jeu ne sait y faire. On ne produit pas des étonnements ou quelque chose d'étonnant par savoir-faire. Aucun jeu ne sait y faire dans cette affaire. Aucun jeu, par conséquent, aucun jeu, c'est-à-dire être qui dit je, moi je, moi je pense, moi j'ai voulu dire, moi j'ai voulu faire, moi je. Aucun jeu ne dispose par conséquent de la forme cinéma. Et c'est à la disposition de aucun sujet en particulier. Il n'y a pas de catégorie opératoire pour la forme cinéma. Il arrive seulement qu'elle arrive. Il arrive qu'elle arrive. Et il arrive que cette arrivée soit respectée. Pas toujours. Parce qu'il peut y avoir des tas de films dans lesquels il s'est passé quelque chose au tournage. Il est arrivé quelque chose. Et dans le montage, on va s'acharner à faire disparaître cette arrivée. Mais il arrive qu'on respecte l'arrivée. Et dans ce cas-là, je pense que la forme cinéma a sa chance. Il arrive que cette forme arrive et qu'elle soit respectée. J'examine dans mon livre divers cas où, en effet, elle advient, divers cas où donc le cinéma se forme pour moi. Alors, je ne dis pas que c'est... Alors, c'est, ce livre n'est absolument pas une étude complète du cinéma, mais quand même, je pense que mes collègues qui sont plus, comment dire, spécialistes que moi, reconnaîtront qu'il y a quand même un peu d'études de films dans ce livre, de séquences en tout cas. Bon, donc, je me fais valider, là, ouais. C'est très bien. Donc, j'analyse des cas où, non pas où, selon moi, de la forme se passe, mais où il y a de la forme pour moi et pour vous, d'ailleurs, parce que la patience des appareils a été respectée dans ce film, voilà. Et que ça peut se montrer. Parmi ces cas, alors j'en garde un pour ce soir, parmi ces cas, il y a des passages d'Antonioni, en particulier ceux où, alors là je vais me citer moi-même, parce que c'est dans mon livre la première définition de la forme cinéma qui apparaît, c'est page 57. Donc je regarde des passages d'Antonioni, en particulier ceux où... Donc, s'attarde, où le plan s'attarde un peu dans l'enregistrement. Il y a ça chez Antonioni, je pense que José en parlerait, ou en parlera beaucoup mieux que moi, le fait que, par exemple, chez Antonioni, il coupe un tout petit peu trop tard par rapport aux nécessités de l'intrigue. Pas toujours, mais quand même, volontiers. Hein, le plan s'attarde dans l'enregistrement. Ce faisant, le cinéaste, donc Antonioni, nous faisant par ailleurs à la mentalité de ces personnages, ne nous demande pas seulement d'adopter le point de vue des personnages sur le monde, hein, que nous adoptions le point de vue des personnages sur le monde, c'est ce que le moindre film fictionnel nous demande, voilà, de comprendre, pas de sentir, mais de comprendre les personnages, d'avoir un point de vue sur eux, d'être en empathie avec eux éventuellement, etc., hein, d'avoir de la compréhension pour les personnages. Là, vous avez affaire à un plan qui dure un tout petit peu trop pour que l'affaire du plan soit seulement de rendre les personnages compréhensibles par les spectateurs. Donc le film s'attarde un peu dans le plan, et ce faisant, le cinéaste nous demande, opérant un court instant peut-être, mais tout de même opérant à contresens de la demande de compréhension, ce faisant, opérant en quelque sorte à contresens de la demande de compréhension, il inscrit dans le registre de la forme cinématographique ce qui, du point de vue diégétique, doit être pensé comme sans forme. Du point de vue diégétique, ça ne fait pas forme, ça ne convient pas. Voilà. Voilà. Ainsi nous met-il en tension. Un film dans lequel, un moment de film dans lequel la forme cinéma se forme pour moi, pour vous, pour nous, hein, un moment de film dans lequel la forme cinéma se forme pour nous est un moment que nous allons vivre dans une certaine tension. Tension entre l'exigence de compréhension portée par le caractère intrigant du film, l'intrigue, d'une part, et d'autre part, la patience de la caméra qui est un tout petit peu trop longue, un tout petit peu trop sensible pour justement la compréhension, la tension. Hein. Je pense, il me semble qu'on peut le montrer, pour un certain nombre de plans d'Antonioni, que ces plans, ce cinéma, est pris dans une tension et que peut-être il n'y a pas de forme qui ne puisse exister sinon dans cette condition, la tension. ce que nous voyons à ce moment-là dans les plans n'est pas tout absorbé dans ce que nous comprenons. Il y a une part d'étonnement, par exemple. Ce que nous voyons n'est pas tout absorbé dans ce que nous comprenons. J'appelle forme cinéma ce reste de et au visible dans lequel se réalise à la fois un supplément de présentation du monde et une auto-présentation du cinéma. C'est la première définition de la forme cinéma que je donne dans mon livre. J'appelle forme cinéma ce reste de et au visible dans lequel se réalise à la fois un supplément de présentation du monde et une auto-présentation du cinéma. Alors, quand je dis se réalise souvent dans le livre, et pas seulement dans ce livre-là d'ailleurs, je joue sur l'étymologie du mot, du verbe réaliser. Il y a res, le mot res latin dans réaliser. Tu réalises ce que tu viens de dire, ça veut dire tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Ouais. Mais on peut aussi comprendre le verbe réaliser comme voulant dire littéralement, étymologiquement, devenir quelque chose. Res en latin, le res qui est dans réaliser. Réaliser un film, c'est faire quelque chose, de toute façon, c'est une réalisation, c'est-à-dire c'est faire devenir chose, quelque chose qui n'était pas déjà une chose. C'est mettre au monde une chose qui n'était pas déjà mise au monde. C'est réaliser en ce sens-là. Mais en même temps, on peut dire que dans certains moments, je réalise, au sens tu te rends compte, etc., tu prends conscience. À certains moments, je réalise que c'est du cinéma. Et peut-être, je vais revenir au tout premier mot du premier point de mon exposé, peut-être que le fonctionnement d'un film banal, le fonctionnement banal d'un film, ça ne demande pas qu'on réalise le cinéma qui est dans le film. Ça ne demande pas qu'on réalise la forme dont le film est potentiellement porteur. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'on oublie qu'on est au cinéma pour être embarqué dans l'intrigue que par ailleurs le film met en ordre. J'appelle forme cinéma un reste de et au visible dans lequel se réalise à la fois un supplément de présentation du monde, ça c'est l'indice, hein, ça vient de... et une auto-présentation du cinéma, c'est-à-dire je réalise à ce moment-là que c'est du cinéma, je dirais, un point c'est tout. Ça n'a pas de sens. C'est juste du cinéma. Ça ne signifie pas à ce moment-là. Ça étonne, et ça étonne d'autant plus que justement ça ne signifie pas. Comme la forme animale ne signifie pas pour les animaux. Bon. Donc ce que je viens de vous lire, c'est une définition de la forme de cinéma. Il y en a quelques autres dans mon livre, mais qui restent évidemment dans le même esprit. La notion de tension, comme vous venez de l'entendre, se trouve évoquée à ce moment-là du livre. Et je la reformule plusieurs fois par la suite, la notion de tension, avec le mot de distraction, mot-clé de la pensée de Walter Benjamin. Voyez pour cela le dernier chapitre de la deuxième partie de mon livre, mot-clé distraction de la pensée de Benjamin, à ne pas confondre avec celui de divertissement. Distraction. Vous entendez dans distraction, traction, ça tire. Dit en deux côtés. Ben c'est ça une tension. La tension, c'est deux pôles entre lesquels ça tiraille. Distraction, tension, etc. La forme cinéma tiraille le film. La forme cinéma distrait le spectateur, mais distraction est, je réfère à Benjamin, un mot positif dans mon langage, ce qui ne serait peut-être pas le cas. Pas de la même manière, en tout cas, du mot divertissement. Le divertissement, tout divertissement, c'est ce que ça veut dire si on prend l'étymologie latine du mot d'une part et le sort fait à ce mot dans la théorie classique de l'art, divertere, ça veut dire détourner. Tout divertissement est un détournement, un emportement, un ravissement, une séduction de l'attention. Divertir, c'est détourner, emporter, ravir ou séduire l'attention. Ce sont des mots que vous trouvez dans l'histoire de la notion, particulièrement au XVIIe siècle. La distraction, elle, ça n'est pas un détournement d'attention, c'est un dédoublement. Le distrait n'est pas inattentif, le distrait a l'attention tiraillée. Il m'arrive même de dire que le distrait... Son problème, c'est qu'il est doublement attentif. Un distrait n'est pas inattentif. Le diverti est mis dans une certaine inattention, mais pas le distrait. Le distrait est tiraillé entre deux motifs d'attention possibles. À un pôle de l'expérience distraite, il y a ce que le sujet comprend de la situation. À l'autre pôle de l'expérience distraite, il y a une phénoménalité objective, quelque chose qui est là, objectivement. Il y a une phénoménalité objective qui, écartant ce sujet, ce même sujet, de ce qu'il est en train de comprendre, et par ailleurs, n'étant pas elle-même toujours formée au même degré, se fait plus ou moins sentir, c'est-à-dire étonne plus ou moins. Une expérience distraite, il y a toujours un pôle qui est ce que le sujet comprend de la situation et un autre pôle qui le tiraille, qui n'est pas compatible avec ce qu'il comprend de la situation et qui se fait, selon la forme que ça a, le degré de forme que ça a, plus ou moins sentir et par conséquent, se trouve en situation d'étonner plus ou moins. Alors parfois, comme je reprends une expression qu'on n'a pas beaucoup soulignée chez Benjamin et qui pourtant y est, il peut y avoir un haut degré de distraction, une distraction qui est associée par Benjamin, il lit Baudelaire à ce moment-là, à une haute conscience. Donc c'est quand même un concept de distraction extrêmement intéressant, extrêmement subtil. Voilà. Il peut y avoir une haute distraction, une distraction liée à une haute conscience, quand précisément ce qui distrait le sujet de l'autre pôle de l'attention, de ce qu'il comprend de la situation, se fait tout à fait sentir. Pas un peu sentir, pas sentir en douce, mais tout à fait sentir. Voilà. Et à ce moment-là, le tiraillement est maximum. Et à ce moment-là, peut-être, le sentiment de la forme est maximum. Le sentir de la forme du côté du spectateur est maximum. Alors, thèse que je tire de Benjamin, toute mise en fonctionnement d'un appareil d'enregistrement fournit de la distraction. Alors ça pourrait être une thèse que je fais valoir aussi autant que je peux quand je fais de la philosophie de la technique, si vous voulez, que je m'intéresse au qu'est-ce que c'est qu'un instrument, qu'est-ce que c'est qu'un outil, qu'est-ce que c'est qu'une machine, qu'est-ce que c'est qu'un appareil, etc. Qu'est-ce qui distingue tout ça? Toute mise en fonctionnement d'un appareil d'enregistrement fournit de la distraction. Parenthèse, ça veut dire que nous aujourd'hui, vous aujourd'hui, qui sommes des humains d'après les appareils d'enregistrement. Si nous étions au XVIIe siècle, je ne vous dirais pas ça. Mais nous sommes au XXIe, et le XXIe est marqué. Tous les appareils avec lesquels nous vivons aujourd'hui sont des appareils d'enregistrement. Voilà. Et par conséquent, le fond de l'époque, c'est la distraction. Le problème, c'est de savoir si cette distraction se fait sentir ou pas. Et je dirais, je m'engage évidemment là-dessus parce que là, c'est un jugement sur l'époque, malheureusement, la distraction ne se fait pas sentir. Nous la vivons, c'est sûr, puisque nous sommes entourés d'appareils d'enregistrement, mais nous ne la sentons pas parce que nous manquons de mise en forme pour ça. Ça, c'est ma thèse fondamentale. Toute mise en fonctionnement d'un appareil d'enregistrement fournit de la distraction, dès lors, il n'y a pas de film qui n'implique la tension que je viens d'essayer de vous dire entre le compréhensible et le sensible. Mais beaucoup le font, implique cette tension en refoulant. Benjamin dit en amortissant, je pourrais dire aussi en économisant le principe. Beaucoup de films reposent sur des appareils que je pourrais qualifier de distrayants, mais beaucoup le font en refoulant, en amortissant ou en économisant le principe de distraction qui se trouve au fondement de tout appareil d'enregistrement. Si je ne suis pas clair, vous me le direz dans quelques minutes, j'ai presque fini. Si c'est vrai ce que je vous dis, si c'est juste ce que je vous dis, si nombre d'opérations filmiques peuvent économiser le cinéma et le refouler en leur sein, c'est parce que cette économie et ce refoulement répondent à des attendus qui ne tiennent pas à la forme, mais à la fonction possible des films. Alors j'aime bien ce mot attendu, hein, qu'on dit « je t'attends ce soir, tu vas voir hein, ». C'est-à-dire, vous voyez l'ambiance, quoi. Les attendus. Qu'est-ce qui attendait le cinéma? Voilà. pour lui faire, pour, comment dire, pour lui régler son compte, pour lui faire sa fête, pour etc. Les attendus. Quels sont les attendus dans lesquels quelque chose comme le cinéma et plus généralement les appareils d'enregistrement sont arrivés au monde. Voilà. Si nombre d'opérations filmiques peuvent économiser le cinéma et le refouler en leur sein, c'est parce que cette économie et ce refoulement répondent à des attendus qui ne tiennent pas à la forme, mais à la fonction possible des films. Ce qui a été le plus souvent demandé, attendu, ce qui a été le plus souvent demandé à l'industrie du cinéma, ce qui a été beaucoup attendu d'elle, ce n'est pas la mise en forme, c'est plutôt de rendre ce service dont aucune culture probablement ne saurait se passer, celui de cuisiner des fictions capables d'accommoder le rapport des humains au monde en représentant ce monde de telle sorte qu'il en devienne à peu près digeste. Je vais vous relire cette phrase dont je ne suis pas mécontent, même si elle est un peu longue et complexe, parce que là, je suis en train de... En fait, je n'ai pas le temps, là, je vois bien qu'il faut que je me calme, mais j'ai lâché le mot cuisine, le mot fiction, etc. C'est une traduction de la poétique d'Aristote, un peu pas très académique, mais je pense qu'il y a un mot d'Aristote qu'on peut traduire par cuisine, hein, que cuisiner des opérations filmiques, c'est un bon... Il faut fabriquer tout ça. Bon, il y a toute une série d'opérations qui ne se font pas au vu et au su du spectateur. Et en fait, Aristote est l'un des plus anciens textes qu'on ait qui justifie qu'il y ait des fictions. Et c'est ce que je résume dans la thèse. Il n'y a peut-être pas de culture humaine qui puisse se passer de fictionner le monde. Fictionner le monde, c'est le représenter de telle façon que ce qui s'y passe, qui n'est pas toujours heureux, loin s'en faut, deviennent à peu près digestes. Alors je dis digeste, ce serait une façon de traduire catharsis, si ce mot vous est connu, qu'on trouve chez Aristote. Digérer, pouvoir digérer, que ça passe. Voilà. Peut-être que ça sert à ça, les fictions. Ça sert à faire passer la douleur du monde. Voilà. Et c'est tout à fait respectable. Voilà. Sauf que, pour revenir à mon raisonnement, fabriquer une fiction est peut-être contradictoire avec le fait de faire forme. Voilà. Et il va falloir, si c'est une contradiction, faire des choix. Voilà. Donc, je reprends ma phrase un peu compliquée. Ce qui a été le plus souvent demandé à l'industrie du cinéma, c'est pas de la mise en forme, c'est de rendre ce service dont aucune culture probablement ne saurait se passer, celui de cuisiner des fictions capable d'accommoder, vous retrouvez le commode, l'utile, etc., capable d'accommoder le rapport des humains au monde en le représentant, ce monde, de telle sorte qu'il devienne à peu près digeste. C'est assurément un art que cette cuisine, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est un art que cette cuisine, mais cet art n'est pas propre à l'appareillage du cinéma. On peut faire des fictions avec bien d'autres techniques que celles du cinéma, la littérature par exemple, le théâtre, etc. Bon. Donc c'est assurément un art que cette cuisine, mais cet art n'est pas propre à l'appareillage du cinéma et il est bien plus vieux que lui. L'art de la fiction est bien plus vieux que le cinéma. Donc dès que vous faites de la fiction au cinéma, vous faites vieillir le cinéma. C'est ça que je vais dire quasiment pour conclure. Voilà. Vous faites du cinéma un vieil art. Et pourquoi pas, mais quand même, réfléchissons à ce que ça veut dire. Voilà. Ou aux conséquences que ça peut avoir. Ainsi y a-t-il encore tout un art des films qui n'est pas le cinéma même, qui au fond l'aura vieilli et le vieillit encore, et qui n'a pas pour souci majeur là, en effet, peu serviable, l'insignifiante, mais toujours surprenante, je dis même émouvante à la fin de mon livre, beauté des formes. Peut-être que la cuisine représentative du monde qui nous permet de le digérer a comme conséquence, en tout cas de nos jours, de nous séparer du souci peu serviable, peu utile, peu commode, de la beauté des formes. Aujourd'hui, même si les appareils d'enregistrement ont évolué, même s'ils ne sont plus analogiques mais numériques, la forme cinéma existe toujours à titre de possibilité intrinsèque à ces appareils. C'est une possibilité toujours des appareils, même numériques. Mais, comme vous le savez sans doute, nous n'avons guère d'empressement à l'égard de cette possibilité. La possibilité de la forme est toujours là, mais nous n'avons guère d'empressement à l'égard de cette possibilité. Elle n'est pas ce que nous nous demandons le plus. Ainsi, les travailleurs de la forme sont-ils plus isolés qu'ils ne le furent un temps? Cet isolement a sûrement des raisons, mais à l'heure qu'il est, je ne saurais les exposer, puisqu'il faut que je conclue. Mais je pense qu'il y a des raisons, évidemment, à ça. Je peux en parler si vous le souhaitez, mais je ne vais pas le faire de moi-même. Il faut que je m'arrête de parler pour laisser place à vos questions. Donc cet isolement des travailleurs de la forme a sûrement des raisons, mais je ne vais pas les exposer à l'instant. Elles sont, ces raisons, sûrement respectables, mais assez sûrement aussi, elles risquent de rendre quelque peu intempestif ou inactuel un livre comme le mien. Et c'est ce que je crains beaucoup, que mon livre soit parfaitement intempestif. Au fond, voilà. Aussi, pour ne pas désespérer dans ce risque, pour rester, quant à moi, optimiste, je vous ai parlé de bonheur tout à l'heure, je pense qu'il faut y penser. Voilà. Donc pour ne pas désespérer dans le risque où se trouve mon livre d'être parfaitement intempestif, je propose d'inverser l'enjeu. Je propose d'inverser l'enjeu et de dire, c'est ma phrase de conclusion, munis comme nous le sommes quand même encore du souvenir de quelques moments de forme, et de forme cinéma en particulier, nous avons encore ça dans la tête, encore aujourd'hui. Munis comme nous le sommes quand même du souvenir de quelques moments de forme, et particulièrement de forme cinéma, demandez-vous si notre propension à signifier et à fictionner le monde, qu'on trouve en masse dans ce qui s'appelle aujourd'hui les séries, la propension à signifier et à fictionner le monde, demandons-nous si elle n'a pas à présent quelque chose d'un acharnement accablant. Je m'arrête là.
Des interrogations, mais en tout cas c'était vraiment d'une densité rare et j'espère que ça en tout cas ça vous a fait réfléchir. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y,
n'ayez pas peur s'il y a des choses qui vous ont semblé.
Oui.
Ouais. Non, moi j'ai une question, vous parlez beaucoup des appareils d'enregistrement, tout ça. Je voulais savoir à quel point est-ce que vous pouvez parler du montage aussi dans. Parce que du coup, je sais que vous avez parlé par exemple du rapport accidentel, de mettre des mots dans le livre, c'est pas le but, mais du rapport un peu accidentel de l'appareil d'enregistrement et du coup du fait que ça relève de ça relève rapport industriel avec. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Et moi, je voulais vous poser la question sur. Parce que pour moi, le montage, c'est aussi un moment où. Il y a des accidents qui peuvent se mettre en place. Des accidents qui peuvent se mettre en place, ne serait-ce que par rapport au collage de deux moments d'enregistrement qui forment une espèce de sensation différente de ce qu'on pourrait avoir avec un moment très isolé. Du coup, je voulais surtout poser la question sur le montage. Pourquoi est-ce qu'on pouvait parler du montage aussi
Est-ce que la question que vous posez, c'est celle du faux raccord?
Non, pas forcément.
Pas forcément.
Après, ça peut rentrer dedans, quelque chose qui arrive sans avoir été prévu forcément, mais c'est même au sens plus large du montage. En quoi est-ce que vous pourrez parler du montage, par exemple, comme une sorte d'appareil aussi?
Il y a un très beau film de Pedro Costa, vous connaissez peut-être, Ouji, votre sourire enfoui, qui filme les strobes, lui, en train de monter justement un film. Vous l'avez vu ce film? Non. Pardon?
En train de monter Sicilia.
Oui, c'est ça. Et je pense à ça en entendant votre question, parce que, évidemment, la question du montage, c'est qu'est-ce qu'on fait du tournage? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui a été tourné? Et pour être très très concret, il ne peut pas y avoir de montage sans que se pose la question de couper. Voilà. On coupe où et pourquoi? Voilà. Alors, j'ai parlé d'Antonioni, il coupe un peu tard par rapport à l'économie de l'intrigue. Voilà. Donc c'est une décision. Mais pourquoi il prend cette décision? Parce qu'il respecte quelque chose qui a accidenté le film au moment du tournage. Par exemple, il me semble qu'il disait, mais José confirmera, qu'il aimait bien justement dire... il dit couper, l'actrice Monica Vitti, en l'occurrence, se relâche un tout petit peu, elle relâche la tension qu'elle mettait à être son personnage, et bien qu'il ait dit couper, on tourne encore et on garde un bout de ça. Au montage. Hein, donc, est-ce qu'on coupe? Bon. Dans mon livre, je parle de la question, qu'est-ce que ça veut dire couper trop tôt, couper trop tard? Quelle est la règle? Bon, et pour... puisque j'évoquais le film de Pedro Costa, alors je vais caricaturer un petit peu, mais il me semble qu'à un moment donné, Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, elle est à la table de montage, hein, et lui, il fait les 100 pas, parce qu'il est assez... il est assez anxieux. Et donc, à un moment, elle lui dit, en gros, venez voir. Il se voyait. Hein. Venez voir. Et donc, il vient voir et elle lui dit... Donc, il s'agit de savoir si on garde un personnage qui sourit. Et si oui, où commence et où s'arrête le sourire. Voilà. Est-ce que c'est quand les lèvres s'étendent un tout petit peu, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose au coin de l'œil, une petite ride, quelque chose qui signale, enfin qui amène, qui met dans la vue le sourire. Ça, c'est des décisions de montage, et je crois qu'elle lui dit, moi dans mon souvenir, elle le dispute, et elle lui dit, mais Jean-Marie, vous n'y connaissez rien, c'est pas ça, un sourire, il faut pas couper là où vous dites. Voilà. Donc... globalement, je pourrais peut-être répondre à votre question si je l'ai bien compris, en disant que au fond, il y a une espèce de... Enfin, j'aime pas le mot que je veux dire, mais peu importe, j'en ai pas d'autre à l'instant, une sorte de morale du montage qui consiste là aussi, il y a deux possibilités. Le montage est pris dans une tension, moi je vais mieux le dire, il est pris dans une tension entre monter pour servir l'intrigue, monter pour servir les intentions du filmeur, les intentions du scénario, ce qui était, etc., ou bien monter pour, en tenant compte du matériel qui a été tourné, et dans ce matériel, à quel moment la patience de l'appareil laisse-t-elle quelque chose à voir? Voilà, pour répondre peut-être un peu vite.
Au fond, ce qu'on fait, c'est au fond ce qu'on dit quand on fait un coup, c'est-à-dire qu'il y a des films qui se font au tournage et des films qui se font au montage. Et les deux films sont des films qui sont montés. Mais les films qui se font au tournage, un peu comme Cadet Strauss, le geste du montage, c'est de préserver ce qui s'est passé au tournage. Et c'est pas de refaire le film au montage. Et c'est de préserver ce qu'il y a d'accidentel ou de le conserver. C'est pour ça que quand on voit dans le film de Progressa, la précaution, le soin qu'ils prennent, c'est-à-dire de faire commencer plus tôt ou plus tard, il y a quelque chose qui dort de la préservation du geste de ce qui a permis de mettre au jour le tournage. Et c'est ça qui fait la différence. Mais c'est quand même un geste de montage très fort, hein, de toute façon.
Dans mon langage, moi, celui de ma conférence de ce soir, c'est respecter. Respecter le tournage. Et dans le tournage, respecter... probablement, c'est difficile de dire absolument on respecte pas le scénario, mais respecter l'accident, qui est pas forcément... ça peut être une ombre qui passe, enfin quelque chose... dans le montage, respecter le tournage, et dans le tournage, respecter l'accident possible, l'indice, etc.
Oui, pardon.
Je ne sais pas si c'est une question pertinente, mais est-ce que vous faites une différence entre le documentaire et la fiction? Et si oui, alors est-ce que dans le documentaire, il y aurait un degré plus haut d'accident parce qu'on essaie d'attendre à voir ce qui se passe, c'est que cet indice que la caméra enregistre, et après dans le montage, on ferait ce choix et on aura cette patience? Et aussi, je me demande si. Dans le documentaire, si cette patience d'attendre que la France cinéma se passe, si c'est aussi une question politique ou éthique par rapport au sujet, genre si ça peut aider dans la direction de comment on représente un sujet dans le documentaire, si on lui donne cette patience.
Je pourrais vous répondre par une pirouette. Et dire que peut-être que dans les films de fiction, il peut y avoir plus de documentaires qu'on ne croit, et que dans les documentaires, il y a plus de fiction qu'on ne croit. Mais je ne vais pas en rester sur cette pirouette. Mon livre a deux images de couverture, et ce n'est pas n'importe quelles images. Ce sont des images qui sont tirées de films de Godard, qui avaient été tournés avec une petite caméra, la Hatton 35, je crois, si je me souviens bien, dont Godard avait demandé la fabrication spécifique. C'était à l'époque où il n'y avait pas le numérique, etc. Une petite caméra légère, parce qu'il voulait pouvoir filmer l'envers des prises de vue. Les prises de vue, c'est un film de fiction, etc. Il y a des acteurs qui ont des personnages à jouer, etc. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la caméra? Avoir une petite caméra pour filmer ça et insérer ça éventuellement dans le film. Donc c'était une idée de Godard de faire de tout film un documentaire, au fond, quelque chose de ce type-là. Et puis, finalement, la caméra a très peu tourné parce qu'elle était bruyante, et donc on entendait le bruit du moteur. On ne pouvait pas avoir de son direct. Oui, je cherchais l'expression. Et quand même, Godard a utilisé la caméra dans quelques films pour avoir des images. Et celles-ci sont deux images qui ont été tournées avec la caméra à ton comme ça, qui ont été glissées par Godard dans des films, dans certains de ses films. Je donne les références dans le livre. Et on peut se poser des tas de questions. Qu'est-ce que ça signifie, ces plans? Le plan du hérisson qui arrive tout d'un coup, le plan des coquelicots qui arrive tout d'un coup, qu'est-ce que ça signifie? Réponse, rien. C'est l'exemple parfait de l'insignifiant. Ça a été fait pendant le film, c'est un accident. Il y a un hérisson qui passait, il y avait quelqu'un qui avait la caméra entre les mains qui l'a filmé, et Godard le met dans le film sans que ça ait un sens. Alors on peut s'acharner ensuite à interpréter le film, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je pense que le mieux, le plus simple, c'est de dire rien. C'est le passage d'un petit moment de forme pour cette raison que ça rompt avec l'univers de la signification. Bon, alors, une fois que j'ai dit ça, je reviens en faisant moi une pirouette sur votre question. Moi, si j'ai un problème avec ce qu'on appelle le documentaire, c'est qu'il me semble que beaucoup de documentaires sont assignés ou asservis à des intentions plus ou moins politiques, c'est-à-dire à l'idée qu'on va faire dire quelque chose au film ou on va dire quelque chose par le biais du film, et alors là, le montage, on y va, hein, pour que ça soit signifiant. Ben, vous avez la réponse, dans ce cas-là, je fais juste de la critique, là je ne dis pas des goûts, il y a bien des documentaires qui sont arrangés du même côté que les films de fiction, parce que dans les deux cas, il s'agit d'indexer plus que d'autres choses. Il faut regarder quelle est la part de, comment dire, j'ai parlé à un moment donné dans mon exposé de ce soir de ce qui préoccupe le sujet. Quand il y a la chance possible de ce que j'appelle une forme cinéma, c'est que les préoccupations du sujet qui filme, de celui ou de celle qui filme, soient, interrompues par un accident. Voilà. Et c'est ça la question critique. peu importe qu'on ait affaire à ce qu'on appelle un documentaire ou un film de fiction. De mon point de vue. D'impatience.
Oui, impatience. Une question que je vais poser, justement.
Trop sous la caméra. Enfin, j'ai pas envie de donner trop d'exemples afin de ne pas être réducteur dans le terme impatience. Est-ce que vous pouvez y voir une forme d'impatience de la part des couples en plus de sa patience?
Alors, j'espère que j'ai pas dit couper trop tard. Vous me dites que j'ai dit ça, alors ça m'embête un petit peu. Parce que, enfin, si je me réfère à. Au moment de mon exposé où il me semble que je suis susceptible d'avoir utilisé cette expression, je pense que je voulais dire c'est couper tard. Alors après, oui, peut-être qu'à un moment, j'ai parlé de couper trop tard, enfin, je ne sais pas. En tout cas, dans le moment où je pensais au film de Bresson, il s'agit de couper tard. Le son oblige à couper tard par rapport à la vue caméra assignée à l'exigence de mener à bien une intrigue. Voilà. Et donc pourquoi il laisse le plan durer, l'explication que je vois est parfaitement sensible et liée à la patience du microphone qui a en l'occurrence une portée plus longue, une focale si j'ose dire, plus longue que la caméra. Et je pense que probablement porter une attention à la patience des microphones, c'est obligé dans une certaine mesure le film optique, du point de vue optique, à ralentir. Parce que la profondeur de la patience du microphone peut, à certains égards, être plus grande, ou en tout cas portée ailleurs que la caméra. Il y a plein de films qui sont en tension comme ça, entre la perspective de... Par exemple, je pense à des films de Pedro Costa, la perspective de la caméra et celui du microphone qui est pas forcément dans la même direction. Alors vous me posez une question concernant l'impatience, sauf si je comprends pas l'enjeu de cette question, je dirais que, enfin, de mon point de vue, je définirais l'impatience, je sais pas si j'ai mis tant que ça le mot dans mon livre, mais en tout cas c'était dans mon exposé ce soir assurément, l'impatience. Comment dire, un film peut être parfaitement impatient au sens que j'ai essayé de dire ce soir et durer extrêmement longtemps. L'impatience se définirait pour moi par le fait que toute l'opération de la caméra est orchestrée. Même si c'est long, ça ne laisse pas ou ça soumet la patience à quelque chose qui n'est pas du registre de la patience, qui n'est pas du registre de la patience de l'appareil, mais qui renvoie à une autre instance, qui est l'instance du vouloir dire, etc. Peut-être un exemple qui serait... j'analyse à un moment donné un long plan séquence qui dure 9 minutes, si ma mémoire est bonne, de Amos Gitaï. Là, on peut dire que c'est extrêmement patient. Bah oui, ça dure 9 minutes. Bon. Mais en fait, tout est là-dedans. Pareil chez tel long plan séquence de Bellatar, tout est archi orchestré. Et donc, je dirais que la patience de l'appareil, elle est en fait seulement apparente. Voilà. En réalité, ce qui guide le film, c'est une impatience à l'encontre des accidents du tournage. Il ne faut pas qu'il y en ait. Donc, dès qu'on serait sur une position de type « faut pas qu'il y ait d'accident », on serait plutôt, si on admet les concepts que je vous propose ce soir, du côté d'une impatience possible.
En fait, je ne vais pas donner plus d'exemples, mais je vais me sentir obligé d'en donner un quand même pour préciser ma pensée. Imaginons, je filme ma caméra tombe en rade de batterie en plein milieu de ma séquence et je n'ai pas eu le temps de la couper. Et ben, je garde quand même cette partie-là qui n'est pas allée jusqu'au bout de mon intrigue dans le film final, plutôt que de la retourner. Dans ce cas-là, est-ce que ça relève de la patience relativement limitée de l'appareil ou d'une impatience de l'appareil que j'acceptera au titre de la cible.
Mais il faut voir. Il faut voir. Vous serez obligé de vous poser la question désormais. Je garde, je garde pas. Et si je garde, j'aurais été quand même clair parce que évidemment, si j'ai un souhait, c'est qu'on perde pas de vue la notion de forme cinéma ou qu'il puisse encore se faire des films où il y a de la forme. Mais je trouve pas du tout sans importance le fait qu'on fictionne le monde. Je l'ai dit, hein, toute culture. Il n'y a pas de culture humaine qui se soit jamais passée de fictionner le monde. Donc c'est pas rien que l'attente aussi des humains en cette matière. La question est une question critique, c'est une question d'équilibre ou de balance. Quelle part on fait à la beauté des formes, quelle part on fait, si ça doit être contradictoire, à l'importance qu'il y a d'intriguer. Et donc, il faudra que, ce qui serait, à mon avis, extrêmement regrettable, c'est que la question, le cinéaste ne se la pose pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il la refoule, comme j'ai utilisé le mot, qu'il amortisse tout ça. Voilà. Mais si de la chute de votre appareil reste quelque chose, pourquoi pas voilà. Alors, on peut retourner quand même, parce qu'évidemment, votre question est une question limite, ou dans ce cas-là, il n'y a plus de visée. Puisque la caméra est tombée, il n'y a plus de cadreur, il n'y a plus de cadrage, etc. Donc est-ce qu'on n'est pas dans un cas limite où la tension entre le cadrage et l'accident n'a pas lieu, puisque là, il n'y a plus de cadrage. Donc on serait hors du sujet que j'ai essayé de traiter. Mais on peut... moi, dans mon précédent livre, j'avais évoqué le cas du cinéaste Jean-Claude Rousseau, que j'ai rencontré, et je me souviens d'une phrase, je ne pense pas qu'il l'ait écrite, mais je me souviens qu'il l'a dite, donc il parlait d'un film. Il y a aussi ça chez les Straub, où il y a un très très long plan séquence qui dure 15 minutes, c'est-à-dire la durée d'une bobine. Point. Et lui, donc, il filmait beaucoup en contre-jour. Et alors, c'était pas, l'image n'est pas nette, quoi. C'est pas pro. Je ne sais pas comment vous dire ça. On peut lui objecter ça. Et il laisse la caméra tourner obstinément dans ce contre-jour, disons-le, désagréable. Et il dit, mais en fait, c'est pas moi qui fais le film, c'est la caméra qui le fait. Moi, je pose la caméra, c'est ma responsabilité. Et après, elle travaille comme elle peut. Et je trouve cette phrase magnifique. Laisser l'appareil travailler comme c'est possible pour lui. Alors, la plupart du temps... La position des techniciens, c'est d'asservir les appareils et de ne pas les laisser travailler comme ils peuvent, eux, les appareils, mais comme ils veulent, eux, les techniciens. Et à ce moment-là, vous avez un asservissement ou une assignation de la technique. Donc, à vous de voir. Voilà. Vous n'évoquerez pas... c'est une phrase de Benjamin. Ce qui est décisif, c'est l'attitude du photographe à l'égard de son appareil. Voilà.
Dans votre présentation, vous parlez d'accident et de distraction, donc la jonction entre deux choses, et en même temps, vous parlez d'acharnement à fictionner. Mais est-ce que, du coup, si c'est des accidents et justement cette tension entre deux choses, on peut. Est-ce que la forme cinéma peut exister sans qu'on essaye de fictionner, en fait?
Oui. Je pense que c'est. Enfin, si j'ai bien compris, là encore, votre question, je pense que quand je dis. En fait, le drame. Le problème, c'est lorsque, qui était dans mon introduction, quand je dis, moi, je ne suis pas pour la séparation art et industrie. Voilà. Tout ce qui m'a intéressé, ce sont les situations dans lesquelles il y a du « et », les deux. Voilà. Quitte à ce qu'il y ait tension, bien entendu. Tension, distraction, etc. Bon. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On abandonne l'utilité à son propre champ et la beauté devient par définition inutile, abandonnée elle-même à son propre champ. Il y a ceux qui sont des amateurs de beauté et ceux qui sont des amateurs d'utilité. Tout le monde, personne ne s'entend dans l'affaire. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il y a tension interne au film entre les deux exigences. Et si j'ai un problème avec ce qui se fabrique de façon dominante depuis quelques années, c'est précisément que cette tension soit abandonnée au profit, je pense, excessif, à mon sens, de l'intrigue, de la fiction, y compris dans les documentaires. Enfin, pas tous, hein, il y a plein de choses intéressantes qui se font. Hein. Surtout, pardon, que très concrètement, dans bien des documents, enfin, moi ça m'est arrivé d'être filmé moi-même, même pour le journal télévisé. Et je me rappelle, j'étais pour TF1 et on m'a demandé de jouer mon rôle. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de devenir un acteur, au lieu de me filmer en train de faire mon boulot. Ils ont regardé comment je faisais mon boulot et après ils m'ont dit, maintenant vous allez le refaire pour le tournage. Donc en fait, c'est du documentaire. Non, ils m'ont fait fictionner. Ils ont fictionné. Mais je pense que ça se fait quand même assez souvent dans le documentaire. La remise en place intrigante finalement.
La forme cinéma est non seulement rare, mais rarissime. Et même, elle arrive de surcroît ou accidentellement, comme tu l'as dit, dans quelques fragments de film.
Oui, mais je sens qu'il y a des points de suspension et que je veux bien te dire que je suis d'accord, mais j'attends la suite quand même.
Alors, je pose une autre question. Si je comprends bien, si je suis bien ta logique, il n'y a pas de commentaire de film.
Si c'est ça la question. Alors,
Il y a une promesse de cinéma, finalement, que chaque œuvre peut reconduire en tant que promesse. Il n'y a pas de ce fait, notamment.
Alors, je vais répondre en deux temps.
Et donc, on travaille inutilement,
ça c'est... Non, attends. C'est une question. Non, mais j'avais pas compris l'enjeu de la question, mais je crois que maintenant je vois davantage. Mais d'abord, je vais dire que il me semble que la forme cinéma est une chance possible, dans tous les sens du mot chance, comme on dit les jeux de hasard, etc. C'est bon. Ça n'arrive pas toujours. En plus, il n'y a pas de règles opératoires, j'ai essayé d'expliquer, parce que ce n'est pas un savoir-faire, etc. Il n'y a pas de forme, ou il y a des chances qu'il n'y ait pas de forme, en tout cas, si c'est une chance, il y a des chances qu'il n'y ait pas de forme dès lors que le sujet ou les sujets opérants s'imposent. Voilà. Là, on est dans la logique de l'indexation. Dès lors que le cinéaste s'impose, on n'est pas dans la forme. Alors je pense à ça, pourquoi j'en parle pas dans ce livre, mais j'en parlais dans le précédent. Les recadrages de Clint Eastwood à la fin des séquences où il y a un léger mouvement de caméra qui remonte un peu vers le ciel, etc. Je trouve ça, ça m'insupporte en tant qu'amateur de forme, parce qu'on pourrait dire, il fait durer la séquence, c'est comme chez Antonioni. Non, pas du tout, parce que c'est parfaitement intentionnel. Il s'agit de montrer qu'il y a un cinéaste à la manœuvre, je suis là. Faut pas que je tape du poing parce que le micro va l'enregistrer. Je suis là, je me fais voir, je m'impose. Voilà. Je pense que la probabilité qu'il n'y ait pas de forme est liée à une économie du cinéma dans lequel les exigences de la réalisation s'imposent au-delà d'un certain point. Alors après, tu me poses la question.
Finalement, il n'y a pas plus de forme chez Eisenstein. Dont le principe même de création est d'imposer un sens.
Oui. C'est vrai que c'est pas bien ce que je vais dire, mais moi je suis pas. Je suis.
Non, mais,
je veux dire, j'ai jamais été convaincu par Eisenstein.
Ben, ça semble logique.
Ouais.
Oui, ça semble logique.
Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'étudier.
Oui.
Je dis pas du tout.
Non,
je veux pas du tout dire. C'est une question critique. C'est une question critique, c'est-à-dire dans quelle mesure c'est du cinéma ou selon quelle conception du cinéma c'est du cinéma. On peut poser cette question critique. Alors ensuite, la question du commentaire. Il y a un passage de mon livre que je trouve pas forcément des plus efficaces. C'est-à-dire, je me suis dit, zut, j'aurais pu faire... Je me suis même parlé plus grossièrement pour le... J'aurais peut-être pu faire mieux. Ah bon, c'est trop tard. Où je distingue entre explication et commentaire. Et pour moi, c'est une distinction très importante qui déborde largement le champ du cinéma. Je pense que... Alors, ça vient... Pour que je dise tout, ça vient d'un... Ben je suis vieux, là. D'une vieille discussion entre Jacques Derrida et Michel Foucault, qui s'étaient disputés, je m'en souviens, je suis assez vieux pour pouvoir m'en souvenir, à propos de la traduction d'un passage de Descartes, bonamens, ou ratio, est-ce que ça dit la même chose? Ratio, c'est raison, ratio, et bonamens, alors on traduit en français, Descartes lui-même, le bon sens ou la raison est la chose la mieux partagée au monde. Est-ce que le bon sens, bona mens, mens en latin, et ratio, c'est la même chose? Alors, ratio, c'est le discours, équivalent de logos en grec, avec lequel on explique les choses. Alors, expliquer, c'est déplier, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire sortir du pli, quelque chose est impliqué, et on l'explique, c'est-à-dire il y a, quelque chose est impliqué, on ne sait pas ce que c'est au secret, on l'explique, on le fait sortir, et on met au jour, on rend évident. Je joue avec la langue latine, hein, videre, ex, évidence, ça saute aux yeux, ça devient clair. Quoi. Une explication rend clair quelque chose qui ne l'était pas. Désobscurcit, désenferme, déplie, enfin, etc. Alors, je pense qu'on ne peut pas expliquer un moment de forme, ou que si on l'explique, ça veut dire qu'on peut le rationaliser. Il y a là pour moi quelque chose de contradictoire entre le caractère étonnant de la forme pour rien. Hein, la forme est là pour rien, elle n'est pas pour signifier, etc. Donc, si je suis rigoureux, je suis obligé de dire, et ça occupe tout un chapitre de mon livre, que je ne peux pas expliquer le cinéma. Je peux expliquer un film, je peux démonter une intrigue. Tous les textes depuis Aristote sur la question permettent d'expliquer comment il faut faire pour intriguer. Ça, il y a des règles, il y a un savoir-faire, etc. Tout l'art de la peinture soumis à la doctrine du divertissement comporte des règles de procédure qu'on peut expliquer, etc. Mais moi, je pense que les moments formels, pas seulement au cinéma, même dans la vie, je veux dire, quand je dis un matin, nom d'un chien, que la lumière est belle aujourd'hui, quoi, ça ne veut rien dire. Et je ne peux pas m'expliquer le sentiment dans lequel je me trouve. Ça ne s'explique pas pour moi. En revanche, ça se commente. Parce que dans le commentaire, j'entends le mens qui faisait se disputer Derrida et Foucault. Mens qui est en latin, alors on peut traduire par esprit, mais c'est la même racine que mémoire, mémorable, etc. Et d'ailleurs la même racine que image. Dans image, il y a le même latin qui résonne, ou même plus vieux que le latin encore, mimesis. La question qui est quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire. Donc je pense qu'on peut commenter un film, et j'essaye de dire dans mon livre sur quelle base un commentaire peut ne pas tomber, pour moi, hein, dans l'explication au sens que je viens de dire il y a quelques secondes. Et ça, j'avais fait des expériences avec des étudiants, pas pour des films, parce que j'ai jamais eu dans ma carrière à enseigner à des étudiants en cinéma, c'est comme ça. Sauf une fois où José m'avait procuré un cours. Enfin bref, à l'époque, on n'avait pas tous les matériels d'aujourd'hui. C'était bon, autre temps, autre mœurs. Mais j'ai fait des expériences de commentaires avec des très grands groupes d'étudiants très nombreux sur des tableaux de peinture. C'était même seulement des reproductions. La question était, non pas qu'est-ce que ça dit, non pas qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que vous voyez ? Et on peut s'apercevoir à ce moment-là que ce qu'on a vu et ce qu'on garde en mémoire de la vue, on peut le commenter sans fin, faire venir des tas de mots qui, eux, ont toute une histoire, se demander pourquoi ces mots, on les a fait venir, et ainsi de suite. Pour finir, de façon savante, ma réponse, j'espère qu'elle est... Enfin, t'es pas forcément d'accord, mais au moins que ma réponse est compréhensible. J'ai failli venir avec ce soir, et puis finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai relu... un peu quand même dans l'idée de préparer cette soirée, les conférences, la conférence que Claude Simon avait fait lorsqu'il a eu le prix Nobel de littérature, le discours de Stockholm, et 4 autres conférences qui ont été publiées par les éditions de Minuit, qui datent des années 80-90. C'est magnifique. Et je pense que ça explique, quand on met quelque chose du réel en rapport avec de la langue, pour commenter. En fond, Clotimon disait que sa littérature n'est rien d'autre qu'un commentaire du monde. Ça peut être sans fin, et ça peut donner lieu à des constructions textuelles magnifiques, plus ou moins elles-mêmes référentées. Quel est l'itinéraire qui fait que j'ai le souvenir d'un moment de cinéma, et j'y pense, j'y repense, je le mémorise, j'y reviens avec ma mémoire, et me voilà parti pour parler de une lecture que j'ai faite, etc. Ça veut dire que chez moi, une liaison s'est faite entre l'étonnement que me procure le film et la culture que j'ai par ailleurs. Mais ce lien est libre. Il n'y a pas de technique de commentaire.
Si je comprends bien, pour toi, il n'y aurait que des moments de forme.
Des moments de forme.
Des moments de forme. Au fond, comment tu vas dire, est-ce que la forme, elle naît de l'accident et donc, d'une certaine façon, ce sont. Elles ne prennent forme que dans le moment.
Alors. Il y a plusieurs façons, plusieurs niveaux de réponse ici. Là encore, si je comprends bien la question, le premier, je vais dire un truc tout bête, c'est que nous sommes inscrits dans le temps et le temps passe. Voilà. Le temps passe et on pourrait dire la chose qui m'a étonné, elle est forcément fugace. Je vais devoir, à un moment donné, quitter mon étonnement, ma mémoire, etc., et me mettre à travailler, parce qu'il faut bien que je vive, etc., etc. Donc, de toute façon, c'est fugace pour moi. Alors, deuxième niveau, peut-être que ça ne peut être que fugace également dans un film, parce que la raison qu'on a de faire un film n'est pas premièrement... C'est comme... Bon, j'ai commencé par là. Hein, form ever follows function. Premièrement, c'est une fonction. Ouais. C'est-à-dire, si on dit je vais faire un film et qu'on doit justifier cette ambition qu'on a de faire un film, on va l'expliquer et pas la commenter, cette ambition. Et l'expliquant, on va donc lui donner des raisons. Par conséquent, la forme cinéma ne peut venir qu'à partir du moment où quelque chose dans l'opération se soustrait à cette raison, et là aussi, ça ne peut être que passager. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait des films qui soient entièrement du cinéma, si c'était ça ta question. Il n'y a que, même chez les cinéastes où la forme a beaucoup de chances d'arriver, elle est de toute façon pas toujours là, ou elle est plus particulièrement là à certains moments qu'à d'autres, même chez les Straub, je dirais, qui sont peut-être les plus exigeants ou les plus rigoureux.
Ils sont sont au cœur, au fond, de la façon dont tu penses le cinéma, entre guillemets, pas, je veux dire, de ce que tu nous as dit.
Oui. Mais aussi, peut-être, parce que c'est une tâche du faire film en général, que de répondre à une exigence qui n'est pas seulement esthétique. Par exemple, dans les films des Straub, les films répondent à deux exigences, au moins, une exigence esthétique, faire forme, etc., et une exigence politique. Les films des Straub sont exigés par de la politique, et c'est pas... voilà. Sauf que chez eux, je veux dire, c'est bien localisé. Je vais témoigner, parce que maintenant, à l'âge que j'ai, je commence à dire des trucs dont je peux être le témoin. J'ai plusieurs fois, je le connaissais bien, tu le sais que je le connaissais bien, Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Et je me souviens d'une discussion au bistrot avec des bières avec Jean-Marie Straub. Je sais qu'il m'avait donné son accord sur le fait que quand il filme la Terre, ça ne signifie rien. La signification, elle est dans les mots. C'est-à-dire, si on dit « cette Terre est égyptienne », ça ne veut pas dire que la Terre est égyptienne. Ça veut dire qu'il y a une appropriation par le langage de quelque chose qui est sans propriété, qui est la même terre en Égypte que partout ailleurs, etc. Et il y a une tension toujours, il me semble, dans les films d'Estraube, entre le registre de la discursivité qui est politique et... voilà. Et dans le livre, il y a un passage vers la fin, dont la partie s'appelle Critique, où je discute l'interprétation que Deleuze a fournie d'une séquence d'Estraube, parce que justement, il fait dire quelque chose à la Terre, à ce moment-là, Deleuze. Voilà. Et la Terre ne dit rien. Voilà. La Terre. Bon, est-ce que j'ai répondu? Je me suis peut-être emporté. Dans...
Pour être remercié, je précise aussi, comme l'a évoqué Pierre Damien, que dans le livre, plus que dans l'autre d'ailleurs, il y a beaucoup de cinéastes, beaucoup d'extraits de films qui sont convoqués hein, dans ton travail. Cinéastes, par exemple, de Aldrich, Antonioni, Anthony Mann, et des cinéastes au fond qui sont très divers entre guillemets dans leur c'est des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de rejoindre, mais c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de cinéastes qui sont mobilisés à travers des commentaires, hein, je ne me trompe pas sur le terme, qui sont
alors, il y a peut-être deux choses, il est tard, mais des commentaires ou des critiques.
Ou des critiques.
Ah, voilà, parce que ce n'est pas la même chose, il y a le langage de l'explication, le langage du commentaire et le langage de la critique, ça serait trop. Alors, j'ai pensé aux étudiants aussi, parce que les passages de films que José vient de signaler, ils sont minutés dans le film. C'est-à-dire, vous pouvez... ils sont indiqués à la seconde près.
En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Et merci à vous pour votre écoute.